Donc, je vais reprendre en effet en avançant un peu dans le temps, mais avec le même parti pris que celui de Jacqueline Carroix, c'est-à-dire que on a choisi parmi toutes ces communications celles qui nous paraissaient à la fois correspondent aux trois dimensions dont tu as parlé et aussi qui représentaient des trajectoires singulières, mais aussi des trajectoires de groupes de femmes qui ont essayé de prendre des places dans un certain nombre d'univers. Alors, bon, en effet, moi, les trois cas dont je vais vous parler sont plus orientés sur le XXe siècle, puisque je vais aborder d'une part une présentation de l'œuvre de Maria Montessori à travers le travail qu'a fait Valeria Balbini sur cette pédagogue célèbre. Donc là, on a vraiment, de toutes les femmes sur lesquelles on a travaillé, c'est la personne éminente, hein. C'est-à-dire celle qui va être connue et par ses pairs et par le grand public. Excusez-moi, j'ai... je présenterai ensuite un groupe de femmes qui s'intitulait joliment les Demoiselles des Nerfs. Ah ben toi aussi, c'était donc, ça se passait en Suisse, dans le Valais, et il s'agissait donc de jeunes femmes, psychologues, mais on verra ce qu'il faut entendre par ce terme, qui ont contribué à la... à l'institutionnalisation de la pédopsychiatrie dans le canton du Valais. Et donc là, ce sera aussi une réflexion à la fois sur la notion de domaine réservé, pour essayer de voir en effet dans quelle mesure il y a des domaines réservés, mais aussi dans quelle mesure des femmes peuvent faire avancer les choses d'une manière très significative dans ce domaine. On verra en particulier que ça aura un rôle important sur la possibilité pour des psychologues de conduire des psychothérapies. Et ça, c'est quelque chose qui se situera donc entre les années 1930 et 1960. Et enfin, le troisième exemple que j'aborderai, c'est celui sur lequel j'avais travaillé moi-même, c'est-à-dire le cas de la psychologue de l'enfance et de l'adolescence Bianca Zazo, qui se trouvait évidemment être l'épouse du grand psychologue de l'enfance René Zazo. Et j'ai essayé de réfléchir à la manière dont elle avait réussi à se faire un prénom et donc à exister, pas seulement en tant que Madame Renée Zazo, mais en tant que Bianca Zazo. Alors, je ne sais pas si je vais dire... on avait envisagé de dire deux mots du corpus. En fait, il y a, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il n'est absolument pas significatif, bien sûr, à cause de notre parti pris, justement de réfléchir à des trajectoires singulières qui a par contre évidemment des affaires de date qui sont importantes puisque moi je présente le XXe siècle et ces femmes, sauf peut-être Maria Montessori, ne sont plus des pionnières. Elles arrivent dans un domaine dans lequel il y a déjà eu un certain nombre d'avancées. Il y a aussi c'est pour ça que l'essentiel des articles sont quand même situés sur la période qui va de 1870 à 1920. Clotilde Devaux est un peu avant. Et puis il y a aussi des domaines. Hein, et donc on s'est aperçu en fait que la notion de domaine réservé n'était pas tout à fait juste, bien que ce soit dans la médecine, dans l'éducation, dans la psychologie. Le rôle des femmes est très important concernant justement la question de la famille, de l'enfance et de la femme elle-même, mais on pouvait aussi trouver des femmes qui étaient dans le domaine de l'anthropologie, de la criminologie, même si c'est d'une manière tout à fait détournée comme ta Mathilde, de l'histoire et de la philosophie. Donc je vais commencer par parler de Maria Montessori, qui est donc qui a eu une carrière extrêmement longue puisqu'elle couvre en fait pratiquement tout le premier XXe siècle et qui a été très vite qui a très vite trouvé une reconnaissance. En 1913, elle est en visite aux États-Unis et il y a un journal de New York qui titre The Most Interesting Woman in Europe, la femme la plus intéressante d'Europe. Et en effet, elle a donc dès cette époque une renommée très importante. Son premier livre la méthode expérimentale en pédagogie qui date de 1909 est déjà traduite à de multiples exemplaires et dans de multiples langues. Par contre, donc, elle a une reconnaissance scientifique, académique, du grand public. Ses conférences aux États-Unis vont recueillir un intérêt énorme. L'endroit où elle va avoir le plus de difficultés à exister, finalement, c'est son pays, en Italie. Et Valeria Balbini montre dans son ouvrage à quel point cette difficulté est liée à sa posture féministe d'une certaine manière et au fait qu'elle incarne un front à la fois positiviste, scientiste, militant et féministe. Et elle récuse donc Valeria Balbini d'une certaine manière l'historiographie montessorienne classique, si vous voulez, c'est-à-dire qui explique toujours plus ou moins comment cette jeune femme médecin, en effet jeune, elle a donc commencé ses études de médecine en 1890 et elle était la cinquième femme médecin en Italie, a eu une intuition. Elle travaillait auprès des enfants hébéphréniques, arriérés, dans le quartier populaire de San Lorenzo, et comment elle aurait eu l'intuition d'étendre la méthode pédagogique d'éducation et de rééducation qu'elle avait élaborée auprès de ses enfants arriérés à des enfants normaux plus jeunes, ce qui donnera donc les expériences pédagogiques des Casa dei Bambini, des maisons d'éducation pour les enfants, de Maria Montessori. Donc il y aurait eu, si vous voulez, à la fois la poursuite d'une tradition qui est une tradition française, la tradition d'Itard, s'occupant du sauvage de l'Aveyron, de Seguin aux États-Unis ou de Binet en France, et en même temps avec une expérimentation plus hardie. Alors, pour Valeria Balbini, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça serait passé. On ne peut comprendre la carrière de Maria Montessori que si on considère qu'elle est à la jonction de trois domaines qui sont à la fois la médecine sociale, la politique et le féminisme pratique. Et ces trois domaines, en fait, elle va les développer tout au long de sa vie, ces trois dimensions dans des domaines variés qui seront pas seulement l'éducation des enfants, mais aussi la question de la libération des femmes, de l'anthropologie, etc. Mais ce n'est qu'au début, elle revendique tout à fait son féminisme, mais plus tard, lorsqu'elle aura eu une stature intellectuelle très importante, elle ne le revendiquera plus. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par féminisme pratique? C'est l'idée qu'il s'agit à la fois de créer, de diffuser des savoirs qui doivent se transformer immédiatement en pratique et en pratique sociale, et c'est là que c'est politique, puisqu'il s'agit donc de rendre leur dignité par l'éducation à ceux qui en ont été privés, les pauvres, les femmes et les enfants. Et elle va aussi devenir une figure de proue de l'éducation nouvelle, par rapport à cette utopie qui est au fondement même de l'éducation nouvelle, à savoir que le sauvetage de l'humanité passera par une nouvelle forme, une révolution pédagogique radicale, donc une nouvelle forme d'éducation des enfants. Donc ce thème traverse tout le premier XXe siècle, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans la Russie bolchevique, à travers l'idée de l'enfant nouveau qui créera l'homme nouveau, hein, sous des formes diverses. Et elle va aussi incarner tout à fait cette dimension. Et Maria Montessori est une femme libre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne sera jamais dans aucune posture subalterne par rapport à aucun de ses collègues masculins. Elle sera aussi une femme libre dans sa vie, puisqu'elle va vivre en union libre avec un de ses collègues dont elle aura un enfant, Mario, qui portera son nom, Mario Montessori. Mario M, ça c'est le nom du père, Montessori. Mais elle n'ira pas jusqu'au bout de cette revendication de liberté, parce qu'elle le présentera comme son neveu. Et le dit Mario Montessori passera toute son existence à poursuivre l'œuvre de sa mère. Mais on peut dire aussi, ça c'est une parenthèse, que c'est pas tellement plus facile d'être l'enfant d'une grande femme que l'enfant d'un grand homme, hein, et que la vie de Mario Montessori était a sans doute été aussi très surdéterminée par ça, comme a pu l'être celle d'Anna Freud ou de Klaus Mann, d'une certaine manière. Donc là, je vais laisser donc Maria Montessori pour aborder le deuxième exemple qui correspond à un travail qui a été fait par Catherine Fussinger, qui est donc chercheure à l'Institut roman d'histoire de la médecine, sur donc la création de la pédopsychiatrie dans le canton de Vaud et le rôle de ces femmes qu'on a appelées les demoiselles des nerfs. Alors là, le contexte, si vous voulez, c'est un contexte qui est international aussi et qui est marqué par le souci de prévention de la délinquance. Et donc l'idée que le dépistage précoce des défauts de caractère et du comportement chez les enfants à l'école pourrait permettre d'éviter que se développent des pathologies plus lourdes qui pourraient conduire à la psychopathie et à la délinquance. Et donc il y a à la fois une notion de dépistage et une notion de rééducation et de thérapie. Alors l'historiographie classique aussi attribue donc au canton de Vaud le premier centre psychopédagogique d'une certaine manière qui s'appelle le service médico-pédagogique vaudois et qui aurait été fondé en 1930 par le docteur André Répond. Je dis bien qu'il aurait été parce que Catherine Fussinger va mettre un certain nombre de bémols ou de points d'interrogation autour de cette question-là. En tout cas, ça traîne dans tous les livres. En 1930, le docteur Répond fonde le service médico, le premier centre psychopédagogique sur lequel prendront exemple tous les autres centres suisses et le premier centre français créé à la Libération. Le premier centre psychopédagogique créé à la Libération en 1946, le centre psychopédagogique du lycée Claude Bernard. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, Répond dit qu'il a pris exemple sur un modèle américain qui est le modèle des Child Guidance Clinics, qui sont les premières cliniques dans lesquelles on s'intéresse donc au dépistage précoce de la normalité chez les écoliers et dans lesquelles on fait un travail clinique, donc qui passe aussi par une rééducation par la parole, par exemple, et pas seulement, soit par des traitements chimiques, soit par des traitements sociaux qui pourraient être l'enfermement dans des centres de prévention ou dans des maisons d'éducation spécialisées un peu rudes. Donc il s'agit d'un modèle très novateur qui se développe dès les années 10 aux États-Unis, en lien aussi avec un mouvement plus global qui est le mouvement de l'hygiène mentale qui va travailler toutes les démocraties à partir donc de cette période de 1910 à juste après la Première Guerre mondiale. Par contre, Répond va évidemment être obligé d'aménager son modèle parce que le modèle américain est un modèle urbain. Et donc, dans ces Child Guidance Clinics, qui sont des sortes d'hôpitaux ouverts d'une certaine manière, si vous voulez, il y a des assistantes qui peuvent être soit des institutrices, soit ce qu'on appelle des infirmières visiteuses, c'est-à-dire des assistantes sociales, qui, sous le contrôle d'un médecin psychiatre et de psychologues, vont aller dans les écoles, dans les quartiers, vont faire des enquêtes pour dépister les enfants et vont ensuite proposer aux parents ou aux enseignants qu'ils puissent venir dans ces cliniques pour suivre une rééducation, soit du caractère, soit de la dyslexie, dysorthographie, énurésie, bon, bref, de tous les problèmes. Alors, ce qui se passe, en fait, en Suisse, c'est qu'on n'est plus du tout dans un univers urbain, mais dans un univers de montagne. Et donc, ces fameuses demoiselles des nerfs vont aller de village en village et vont devoir se faire connaître et expliquer ce qu'elles font dans des endroits où on n'a jamais entendu parler ni de psychologie, ni de psychothérapie, ni de rien de tel, ce qui ne va pas leur rendre la tâche facile. Alors, qui sont-elles? En fait, donc, le docteur Répond a donc fondé ce centre qui est en lien très direct avec l'hôpital L'Asile de Malévose et qui est aussi, d'un point de vue de la formation, très proche de ce qui se fait au Bürgelsli en Suisse, et donc d'une psychiatrie qui s'intéresse à la fois à la psychanalyse et à la phénoménologie, qui est marquée par les œuvres, par exemple, de Bleuler et de Jung. Hein. Répond a été tout à fait formé dans cette lignée-là. Il est donc le médecin-chef. Lui-même a été analysé. Le médecin, le vice, qui est juste en dessous, c'est le docteur Benoît, qui lui-même est analysé. Et ensuite, il y a quelqu'un qui s'appelle Germaine Gex, qui n'a aucun titre et qui, en fait, fait marcher absolument la maison. C'est elle qui fait marcher la maison, qui est donc plutôt, d'une certaine manière, la directrice administrative. Et elle a elle-même été analysée par Raymond de Saussure, tout comme Benoît et tout comme Répond. Et donc elle n'est pas dans une posture de disciple par rapport à eux, mais de pair d'une certaine manière, mais elle n'est pas médecin. Hein. Elle est psychologue et psychanalyste. Quant aux dites demoiselles des nerfs, ce sont aussi soit des institutrices, soit des assistantes sociales, mais qui vont toutes être amenées à faire une psychanalyse didactique qui doit durer au moins 3 ans pour pouvoir faire ce type de travail. Donc elles ont une formation d'un niveau relativement élevé. Et là, bien sûr, on va voir qu'il y a une forme de discrimination, puisque elles sont payées exactement de la même manière que leurs collègues masculins qui sont infirmiers à l'asile de Malévose, mais elles ont une formation infiniment plus élevée, hein, à la fois une formation de base plus la psychanalyse didactique de 3 ans. Alors, ce qui va se passer, en fait, c'est que je vais assez vite. Au cours des années 50, Germaine Gex va avoir une reconnaissance qui va dépasser les frontières helvétiques, parce qu'elle publie au PUF un ouvrage qui s'appelle « La névrose d'abandon » qui va avoir un très très grand retentissement. Et à l'époque, elle est la compagne d'un psychanalyste suisse qui s'appelle Charles Audier, qui va mourir peu de temps après. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les chroniqueurs disent qu'elle continue l'œuvre de Charles Audier sur la névrose d'abandon, alors que c'est elle qui en est l'auteur, hein, d'une certaine manière. Et donc, on voit qu'à la fois, elle a une stature scientifique importante, et en même temps, elle lui est déniée au moins sur 2 plans, sur ce qu'elle fait au Centre médico-pédagogique vaudois et sur son travail intellectuel. Par contre, ce que Catherine Fussinger montre, c'est à quel point à la fois Germaine Gex et d'autres femmes, dont Madeleine Rambert, qui va mettre sur pied, par exemple, une thérapie par le jeu de Guignol, ont été importantes dans la psychothérapie de l'enfant, et comment elles ont donc rendu possible à des psychologues de faire des psychothérapies, ce qui leur était dénié dans tous les autres secteurs de la psychiatrie. Donc on voit à la fois qu'il y a bien une notion de strate au niveau, si vous voulez, social et de la reconnaissance, mais en même temps une avancée très significative de ce qu'elles ont pu faire dans cette expérience. Alors je vais passer vite au troisième exemple. Alors le troisième exemple, celui de Bianca Zazo, moi j'étais partie sur cette histoire en fait en tombant sur un ouvrage de Bianca Zazo qui était paru en 2000 et qui s'appelait Une mémoire pour deux, et dans lequel elle retraçait la vie d'un couple de psychologues dans la science et dans le siècle, un couple de psychologues en fait des années 1930 où ils se sont rencontrés jusqu'à 1995, la mort de René Zazo, donc quelque chose qui traverse pratiquement le siècle et qui traverse à la fois l'histoire de la psychologie de l'enfant, mais aussi l'histoire politique, puisque tous les deux ont eu des engagements importants au Parti communiste et à travers donc des moments comme la guerre d'Espagne, la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Par exemple, René Zazo est quelqu'un qui a signé le manifeste des 121 au moment de la guerre d'Algérie. Donc j'ai lu ce livre et qui s'intitule Une mémoire pour deux, comme si d'une certaine manière il avait fallu que ce soit elle qui soit la mémorialiste du couple. Et en le lisant, Je me suis souvenue que j'avais lu une biographie, une autobiographie écrite par René Zazou lui-même dans un ouvrage qui s'appelle Psychologue de langue française de Parot et Richel. Et j'avais été frappée par la sécheresse de cette autobiographie dans laquelle, qui ressemblait tout à fait à une notice de titres et travaux scientifiques. Hein, c'est-à-dire que voilà, on ne savait pas absolument rien de son enfance, de sa vie personnelle. On ne pouvait pas du tout savoir qu'il avait adhéré au Parti communiste. On savait donc qu'il avait fait tel travaux, de tel laboratoire, tel bouquin, etc. etc. Et donc, ça m'a amené à réfléchir à la fois à la question de l'autobiographie au masculin et au féminin, à la question aussi de la place de l'autobiographie dans la mémoire des sciences humaines, puisqu'en fait c'est un modèle qui est tout à fait qui existe dans toutes les sciences, pas seulement les sciences humaines d'ailleurs, l'idée que des personnages éminents sont à un moment donné confiés à retracer leur vie pour montrer à la fois leur trajectoire et leur contribution à un savoir cumulatif, etc., etc. Mais aussi la manière particulière dont l'autobiographie peut apparaître pour des gens qui travaillent dans les disciplines psy, et en particulier bien sûr par rapport à la psychanalyse. C'est Freud le premier a donc fait ce travail qu'il a appelé la Selbstdarstellung, et l'idée donc c'était son œuvre correspondait à une partie de ce qu'il était lui-même. Et on peut voir une différence extrêmement significative de ce point de vue-là entre les psychologues. Dans Psychologue de langue française, la plupart des notices sont du type titres et travaux scientifiques, et au contraire, les biographies ou les autobiographies des psychanalystes, même si Freud n'est pas un très bon exemple de ce point de vue-là. Donc il y avait cette dimension qui m'avait intéressée. Alors je vais juste dire deux mots en fait de la manière dont Madame Renée Zazou, et j'insiste là-dessus parce qu'il y a pas mal de femmes psychologues, de collaboratrices dévouées dans l'histoire de la psychologie française, par exemple Vallon, sa femme a beaucoup contribué à ses travaux, mais elle est toujours restée Madame Henri Vallon et on ne se souvenait pas du tout qu'elle s'appelait Germaine. Henri Pierron a eu une collaboratrice très dévouée qui fabriquait des tests, qui les étalonnait en la personne de Madame Henri Pierron, dont personne ne savait qu'elle s'appelait Mathilde, ou pas grand monde, à part sa famille. Et donc Bianca a réussi à devenir elle-même Bianca. Alors, c'est un personnage, je l'ai connu, et c'était quand même quelqu'un, vraiment. Hein, une personne avec une forte personnalité, haute en couleur. Elle est née à Lodz, en Pologne. Elle était donc une petite fille juive polonaise. Elle est née en 1915 et elle explique à quel point dans ces familles juives polonaises, pour les garçons comme pour les filles, le savoir était aviatique dans un monde incertain et problématique. Ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de ces femmes aient fait des carrières relativement prestigieuses, pas seulement dans l'univers de la psychologie et de la psychanalyse. À 16 ans, elle a commencé à militer dans le Parti communiste clandestin de Pologne et elle a été arrêtée. Donc son père s'est dit « oulala » et il l'a envoyée en France en se disant « là-bas, ça sera peut-être moins pire ». Elle va donc rencontrer Renée Zazou et au départ, leur œuvre à tous les deux, d'une certaine manière, va se passer sous le patronage d'Henri Vallon, le grand psychologue de l'enfance. Et alors que Renée Zazou va orienter son travail de psychologue de l'enfance, essentiellement, il est surtout connu par ses travaux sur les jumeaux, et que ce qui l'intéressait dans les jumeaux, c'était pas de quelle manière les jumeaux pouvaient être les avocats de l'hérédité ou de l'environnement dans la querelle hérédité-environnement, mais au contraire, comment se construisait l'individuation à travers cette situation particulière qui est le couple gémellaire initial dont chacun d'entre des membres du couple va devoir devenir un individu singulier et se trouve donc confronté à un processus d'individuation plus complexe que celui des enfants qui sont nés singuliers précisément. Donc tout son travail, une grande partie de son travail va porter là-dessus. Et Bianca, elle va s'intéresser beaucoup plus, non pas à pas comme les autres ou être comme les autres, mais être en groupe. Et son travail va porter donc sur les grands passages de l'enfance à l'adolescence, mais aussi sur la psychologie différentielle des sexes. Et ces travaux préfigurent tout à fait ces travaux qui se passent dans les années 50 et 60, ceux de Baudelot et Establé, par exemple Aller les filles, c'est-à-dire qu'en étudiant des garçons et des cohortes de garçons et de filles, elle s'aperçoit qu'à âge et intelligence égales, les filles réussissent beaucoup mieux à l'école que les garçons, mais que cette supériorité va trouver une limite à cause des décisions d'orientation différentes qui vont être prises pour les filles et pour les garçons. Elle s'intéresse aussi beaucoup à la question de l'adolescence et de l'enfance par rapport au cinéma, aux représentations, etc. Et elle montre qu'en particulier dans les années 50-60, l'âge est un facteur homogénéisateur extrêmement puissant, alors que le sexe demeure très différenciateur, c'est-à-dire que les aspirations, les héros préférés des garçons et des filles demeurent extrêmement différentes, même si ils se retrouvent sur deux aspirations fondamentales qui sont le droit de choisir son métier et le droit de choisir son choix amoureux, d'une certaine manière. Et donc, elle va continuer ses travaux qui vont faire d'elle une spécialiste reconnue de la psychologie différentielle de l'adolescence jusqu'aux années 70-80 et devenir professeure de psychologie à l'Université de Nanterre. Et donc, on voit aussi comment ces choix d'objets sont aussi d'une certaine manière des choix militants, hein, puisqu'elle va toujours militer pour la possibilité pour les filles de faire des choix d'orientation qui leur permettent d'avoir des possibilités de trouver des places sociales équivalentes à celles des jeunes garçons. Je vais m'arrêter là peut-être pour qu'on puisse aborder la discussion.